Quand j'étais petite, ma mère avait décidé que j'aurais les cheveux courts. Fait que les gens sur la rue m'appelaient souvent Tiga. Et un jour, tout a changé. Non pas que mes cheveux étaient plus longs, mais mon petit frère s'est mis à porter des robes. Disons que l'attention était plutôt sur le petite fille. Vous écoutez dans le champ lexical. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on prend un mot et, tel un cube Rubik, on le mélange et on essaie de faire des faces que vous n'avez jamais vues de votre vie. Cette semaine, à Dans le champ lexical, on vous parle de filles.
Fille, c'est un mot dangereux. En fait, c'est un mot dangereux si on vit en 1787, année où a été publié le Dictionnaire critique de la langue française de Jean-François Ferrault. On y explique que « fille », employée tout seule et sans addition, se prend ordinairement en mauvaise part pour une fille de joie, une fille débauchée. Donc, dire simplement « fille », c'est dire « prostituée ». Comme dans l'expression « il se ruine avec des filles ». On doit donc prendre garde comment on emploie ce mot, nous rappelle l'auteur. Utilisé seul, donc, « fille » est un mot connotation très négative. Mais avec une épithète, le mot « fille » est poli et décent. Cette illustre fille, une fille virtueuse, une fille sage, une fille bien. Donc, messieurs qui prévoyez faire un voyage au 18e siècle prochainement, faites attention.
Si tous les mots sont dits déjà, si on a trop perdu de foi, à écrire sur tous les toits, on se fait du bien, on se fait du mal, mais on ne fait rien de bien original, toi et moi, la 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 la. Si tous les refrains sont repris, si tous les noms sont déjà pris, si tous les destins sont écrits, on se fait l'amour ou on se fait la guerre. Me donne des idées un peu clichés.
Vous avez remarqué les princesses, c'est certain. Les princesses de Disney, évidemment, puisque ce sont elles qui ont parti le bal au début des années 2000, mais aussi toutes les princesses génériques qu'ont lancées les autres compagnies pour profiter de la vague. Elles sont difficiles à manquer, même si vous n'avez jamais eu d'enfant. Mais quand on est propriétaire d'une petite fille, on le sait, les princesses sont partout. Je me considère chanceux. Ma fille à moi, qui a maintenant 10 ans, n'a jamais été vraiment très forte sur les princesses, les robes roses et les couronnes en plastique. Mais quand arrivait Noël ou sa fête, la famille peu inspirée, celle qui savait pas trop quoi lui acheter, y allait pour la valeur sûre, la chose que, et là, mettez des guillemets, toutes les petites filles aiment. Les princesses. On a donc reçu des crayons de princesse, des livres à colorier princesse, quelques assiettes princesse et même une douillette princesse. Et c'est la différence entre la vague princesse des 10 dernières années et le phénomène Barbie des années 50, 60, 70, 80, 90. Barbie, c'est une poupée, un seul jouet. Bien sûr, elle vient avec un paquet d'accessoires, du Winnebago au château en passant par Ken et une robe rose, mais ça restait qu'un seul jeu, un monde fermé dans le vrai monde. Les princesses Disney, c'est autre chose. Tout peut être princessisé et la petite fille peut facilement être toujours prise dans un monde de princesses. Et si vous ne me croyez pas, c'est que vous n'avez pas mis les pieds dans un grand magasin de jouets récemment. Notre recherchiste Dominique Charron et moi-même y sommes allés avec un micro. Mis bout à bout, j'en avais pour 10 minutes d'enregistrement d'elle et moi, énumérant simplement des choses de princesses trouvées dans le magasin. En voici une sélection triée sur le volet.
Piscine à balles, princesse. Comment on appelle ça?
La Princess Adventure Hut.
Un petit ballon avec une poignée pour sauter dessus. Ça s'appelle un Princess Hopper.
Et remarquons que pour le petit gars, c'est seulement un hopper.
Yeah, Barbie à l'école des princesses.
Oh.
C'est une apprentie princesse. Bientôt, elle va avoir son diplôme de princesse. Princesse Celestia, qui est une petite pouliche licorne. On peut la faire parler et elle dit...
I am Princess Celestia. I love when you comb my hair. Oh, my hair looks beautiful. You're beautiful. I'm a princess. Are you a princess too?
Un téléphone cellulaire en plastique.
Oh oui.
On n'a toujours pas vu Mulan et Pocahontas.
Le coquillage. Tourne le coquillage.
Oh, Ariel qui... Ariel agite sa queue. Des bébés princesses. Donc vraiment, un bébé Belle au dormant et un bébé Ariel. Étrangement, bébé Ariel, dans ce cas-ci, n'est pas une sirène. Elle vient avec des pieds, ce qui est un peu bizarre.
Le soir venu, lorsque Cendrillon aperçut la robe, elle sauta de joie.
Oh. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, le prince invita Cendrillon à danser, et dansèrent toute la nuit et tombèrent éperdument amoureux. Depuis ce jour, le prince et Cendrillon vivent le grand amour.
Tout le pouvoir d'une belle robe.
Un livre s'adresse pour 3 ans et plus. Un jeu de table vient au bal, aide les princesses et leurs amis à se rendre au bal. Un jeu de poche, princesse. As-tu vu Mulan?
Non, on n'a pas vu Mulan.
As-tu vu Pocahontas?
Non.
Des ukulélés, une guitare complète à 6 cordes. Un petit système de son avec lequel on peut faire jouer des CD, mais qui se transforme également en boîte au trésor si on peut l'ouvrir. Une télé, princesse.
Tout trop rose. Sur lequel on peut regarder, comme on nous montre sur la boîte, des beaux films de princesses.
Ben en fait, Cendrillon et Blanche-Neige, c'est dans les premiers films de Disney, puis Disney se le cache pas lui-même. Il voulait apporter une morale dans ses films, donc c'est vraiment pour que les adultes le voient et que les adultes comprennent comment se comporter dans la vie de tous les jours.
Julie Hull a fait une présentation intitulée « Il était une fois des fillettes et des princesses » au colloque interdisciplinaire en études féministes en avril 2011 à l'UQAM.
Donc une fille doit être innocente, belle, jolie, tout le temps être bien parée, tout le temps bien présentée, ne pas trop démontrer, dans le fond, pas être trop présente. Puis quand on voit Cendrillon et la Belle au bois dormant, c'est exactement ça. Les caractères sont comme éteints. Ils n'ont pas vraiment comme les chevaliers. Leur but, c'est pas d'avoir des super pouvoirs puis de se battre. C'est comme elles, ils attendent là que le prince arrive pour les délivrer du mauvais sort ou de la belle-mère ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a eu une coupure. Quand Disney est mort, ils ont essayé de faire une coupure avec Ariel, supposons, ou Rapunzel, qui est sorti là pas longtemps, mais quand on les écoute et qu'on regarde comme il faut, on voit qu'ils sont vraiment emprisonnés dans leurs problèmes, comme Ariel tombe en amour d'un gars, mais elle peut pas elle-même aller sur la terre pour le conquérir. Elle doit passer par un enchantement. Elle doit quitter sa voix, quitter sa famille, quitter tout ce qu'elle aime pour aller vers le prince. Fait qu'on voit aussi que le stéréotype de t'es pas maître de ta vie, faut que tu passes par d'autres personnes pour t'en sortir.
Elle semble avoir comme principale qualité d'être jolie et d'être voulue parce qu'elles sont jolies ou gentilles ou est-ce que je me trompe?
Non, les princesses sont toutes jolies et ont toutes caractéristiques de princesses. Quand on pense à Mulan ou Pocahontas, ils font pas partie des princesses officielles parce que ils ont pas le glamour de la princesse qui les entoure. T'sais, Mulan voulait être une guerrière, renier un peu son statut de femme. Puis Pocahontas a carrément pas les habits d'une princesse. Fait qu'ils sont plus mis à l'écart. Tandis que les autres princesses, ils ont vraiment le glamour. Cendrillon, le prince tombe en amour avec elle du premier regard. Blanche-Neige, en la voyant le cercueil de verre, sa peau était blanche. T'sais, il y a vraiment tout le temps le phénomène de beauté. En tant que tels, sont assez inoffensifs. Quand tu le regardes d'un point de vue d'enfant, je pense pas que tu puisses voir les stéréotypes qui s'y rattachent. Je pense que les adultes peuvent plus le voir, même si il y a une certaine morale que les enfants peuvent peut-être connaître. Mais tout ce qui est produits dérivés, comme les maquillages, les robes, les talons, les... Ils ont fait des meubles, ils ont fait des douillettes, ils ont fait des draps. C'est vraiment... Il y a même un slogan qui dit que chaque enfant doit être une princesse à chaque jour. Donc, avoir le comportement d'une princesse, s'habiller comme une princesse, penser comme une princesse. Fait que je pense que les produits dérivés comme tels sont pires que les films, oui, parce que les films n'ont pas vraiment d'impact. Je pense pas qu'un enfant va regarder Cendrillon puis dire « Oui, moi, je vais aller m'enfermer dans une maison avec sept nains puis leur faire à manger. » Tandis que quand ils ont des robes, du maquillage, peuvent agir comme une princesse puis jouer comme une princesse, donc apprendre les comportements d'une princesse qui sont assez réducteurs sur les comportements. Donc, une fille doit être réservée, soumise et pas dit comme telle, mais tu dois être réservée. C'est vraiment un stéréotype particulier. On pourrait le rattacher, mettons, au stéréotype de la femme des années 60-70, vraiment de la mystique féminine. Donc, une femme doit tout le temps être bien mise, tout le temps bien paraître, tout le temps être de bonne humeur, tout le temps... Elle ne doit pas avoir de mise de saut d'humeur ou quoi que ce soit. Tout le temps être égale, puis tout le temps être respectable.
Et les petites filles passent pas toutes par ça depuis le début des temps?
Oui, peut-être, mais tu sais, si on compare avec les garçons, oui, les garçons peuvent s'identifier à des chevaliers, mais les chevaliers sont pas chevaliers du jour au lendemain. C'est pas un coup de baguette magique, puis pour que tu deviens un chevalier, faut vraiment que tu t'entraînes pour être un chevalier, que tu t'entraînes pour être le plus fort, pour avoir des pouvoirs ou quoi que ce soit. Tandis qu'une princesse, ça leur vient tout cru dans la bouche parce que tout le temps, une fée marraine ou quoi que ce soit qui vient les aider à accomplir ce qu'ils veulent faire. Puis je me dis, dans un monde où la femme devient de plus en plus... Tu sais, on prend pouvoir de nos choses, puis on veut entrer dans la société, puis faire notre place. Si on les ramène tout le temps à des phénomènes de princesse qui doivent tout le temps être soumises et tout le temps être bien mises, bien placées, ça les aide pas vraiment. Puis Disney, de la manière que c'est fait, c'est que ça commence par le Baby Channel, ça tombe dans les princesses, après ça, ça tombe dans les Britney Spears, Miley Cyrus, puis ça, c'est comme un cercle vicieux parce que ça finit, mais... Il essaie d'emprisonner les personnes dans le plus longtemps possible dans le Disney.
Bénissez les sept petits hommes qui ont été si bons pour moi. Et faites que mes rêves se réalisent. Amen. Oh oui, faites aussi que Grincheux m'aime un peu.
Ah, et femme. Quel fléau de la nature!
Le phénomène princesse a commencé, c'est une personne qui travaille en marketing, qui a été voir Disney On Ice, puis qui a comme fait « Ah, c'est intéressant, les petites filles s'habillent comme les différentes princesses, c'est des costumes faits à la main, pourquoi je partirais pas ma chaîne de costumes princesse? » Puis il est parti ça sans faire de plan de marketing, sans faire de focus group, il a vraiment décidé du jour au lendemain, je me lance là-dedans.
Quelqu'un de marketing te dirait si les princesses ont fonctionné, elles veulent ça, les petites filles, donc pourquoi ne pas leur donner?
Écoute, je travaille dans une firme de recherche marketing. Et je sais qu'il y a du placement de produits qui se fait. Supposons, dans une épicerie, tu peux mettre les cannes de conserve à une place qui vont être plus visibles, puis tu crées un besoin. Donc, c'est sûr que si tu fais la publicité autour des princesses, comme quoi c'est cool, c'est le fun, c'est beau, que les enfants veulent en avoir, puis tu montres des enfants qui portent les costumes des princesses qui sont heureux, ou en créant justement des séries ou des petits bonhommes, puis c'est sûr que tu vas gruger dans le phénomène, tu vas nourrir le phénomène.
Leurs vénérables et vénérées excellences, les trois bonnes fées.
Oh, elle est jolie comme un cœur. Nous les fées dans ce berceau offrons à cette belle enfant chacune. Moi, je vais te faire don de la beauté.
jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix.
Alexane, 6 ans.
J'aimerais être une princesse.
Une couronne, comment on appelle ça?
Quand je la porte, c'est comme une princesse en particulier.
Laquelle?
Comme Belle au bois dormant.
Belle au bois dormant. Est-ce que c'est ta préférée?
Oui, dans mes préférées.
Dans tes préférées, donc t'en as plusieurs?
Oui.
Et ça serait lesquelles?
C'est Pocahontas, Princesse à la grenouille, Réponse, puis Belle au bois dormant.
Et pourquoi celle-là?
Parce que Belle au bois dormant, j'ai rose sur elle, puis j'adore le rose.
Ah. Et pourquoi les princesses?
Parce que j'aime ça, parce qu'elles portent des jolies robes à tout le temps.
Tout le temps?
Ouais.
Même quand elles passent le râteau?
Le râteau?
Ouais, quand ils ramassent les feuilles, quand ils font la vaisselle, ils portent toujours une robe?
Ouais.
Ça doit être pratique?
Je sais, mais les princesses sont comme ça.
T'aimerais ça être une princesse?
Oui.
Porter une robe tout le temps?
Oui.
Et les princesses, qu'est-ce que tu leur fais faire quand tu joues à la princesse avec tes princesses? Est-ce que tu leur fais faire du sport? Est-ce que tu leur fais faire...
Ah oui, je leur fais faire... des fois, je leur fais faire des exercices.
Des exercices pour les garder en forme?
Oui.
Puis est-ce que des fois, tu leur fais faire, je sais pas, les envoyer dans l'espace, les faire jouer aux soldats, les faire...
Oui, des fois, ils font des trucs un petit peu de garçon.
OK, fait que ça peut faire n'importe quoi, une princesse.
Oui, tout ce qu'ils veulent.
Tout ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est des princesses. Hein? Il n'y a personne pour leur interdire de le faire. Puis t'as...
La princesse des bêtes.
Princesse des bêtes. Ça sonne comme ton livre préféré. Est-ce que tu...
Oui, c'est mon livre préféré.
Puis est-ce que c'est parce que c'est une princesse ou c'est parce qu'elle fait des bêtes? Qu'est-ce que c'est ton préféré?
C'est parce qu'elle fait des bêtes, puis elle est une princesse. Elle est drôle en plus.
Avec les deux ensemble.
Elle raconte que c'est une princesse dans un château, puis elle était toute bien habillée, avec une belle robe et une crinoline qui coûte la soupe. Et elle était très polie à table, même si c'était pas son repas favori. Les pages. Puis un jour, quand il n'y avait pas d'invité, Pétunia faisait son premier pet. Et elle rougit, elle s'excusa. Puis là, quand ils l'ont envoyée dans une autre ville ici, elle fait un pet. Puis là, après ça, et lui, il se moqua. Puis il dit, « Oh, Pétunia a fait un pet! » Pétunia faisait n'importe quelle pet. Des pets chauds, des pets venteux, des pets fumés, des pets nuageux, des pets épouvantables et des pets en feu d'artifice. Puis là, ici, un gens ici du village venait sonner à la porte et il savait comment que Pétunia arrête de faire des pets. Et elle disait qu'est-ce qu'elle a besoin du bonheur pour faire tout ce qu'elle veut, parce que là, dans le livre, là, il savait pas que les princesses pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Alors là, il a inventé ça, il était d'accord. Puis là, ils ont enlevé ses robes, puisque c'était genre trop habillé pour elle, mais pas pour moi. Puis là, elle courait dans le champ avec... Puis qu'est-ce que je trouve trop chanceux qu'ils font, là. Ils font... Ils grimpent dans les arbres. Je les trouve trop chanceux.
Ouais, mais si t'étais une vraie princesse, tu pourrais pas grimper dans les arbres non plus.
Ben oui, les princesses font tout ce qu'ils veulent.
Ouais, mais en robe, c'est pas facile.
Ben je sais, mais je vais faire comme elle. J'ai enlevé ma robe.
Et toi, tu voudrais être une princesse pour pouvoir faire tout ce que tu veux.
Oui. Et avoir une jolie robe.
Et avoir une jolie robe. Sauf quand ça te tente de grimper dans les arbres.
Ouais.
C'est un bon plan.
garde du philosophe Jean-Jacques Rousseau par son essai « Émile ou de l'éducation » publié en 1762, l'image d'un penseur qui a libéré l'éducation des enfants, qui leur a permis d'être élevés librement, de laisser libre cours à leurs impulsions, à leur énergie propre. Mais si c'est effectivement ce que le grand Jean-Jacques propose pour les petits garçons, il en va tout autrement de sa vision de l'éducation des petites filles. Je vous lis ici cet extrait, donc, de « Émile ou de l'éducation ». Les garçons cherchent le mouvement et le bruit, des tambours, des sabots, de petits carrosses. Les filles aiment mieux ce qui donne dans la vue et sert à l'ornement, des miroirs, des bijoux, des chiffons, surtout des poupées. Voyez une petite fille passer la journée autour de sa poupée, lui changer sans cesse d'ajustement, l'habiller, la déshabiller cent et cent fois, chercher continuellement de nouvelles combinaisons d'ornements, bien ou mal assorties, il n'importe. Les doigts manquent d'adresse, le goût n'est pas formé, mais déjà le penchant se montre. Elle est toute dans sa poupée, elle y met toute sa coquetterie. Elle ne l'y laissera pas toujours, elle attend le moment d'être sa poupée elle-même. Voilà donc un premier goût bien décidé. Vous n'avez qu'à le suivre et le régler. Il est sûr que la petite voudrait de tout son cœur savoir orner sa poupée. Ainsi vient la raison des premières leçons qu'on lui donne. Ce ne sont pas des tâches qu'on lui prescrit, mais des bontés qu'on a pour elle. Et, en effet, presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire. Mais quant à tenir l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles s'imaginent d'avance être grandes et songent avec plaisir que ces talents pourront un jour leur servir à se parer. Cette première route ouverte est facile à suivre. La couture, la broderie, la dentelle viennent d'elles-mêmes. Il m'a jamais vu coudre, Jean-Jacques. Ces progrès volontaires s'étendront aisément jusqu'au dessin, car cet art n'est pas indifférent à celui de se mettre avec goût. Mais je ne voudrais point qu'on les appliquât au paysage, encore moins à la figure. Des feuillages, des fruits, des fleurs, des draperies, tout ce qui peut servir à donner un contour élégant aux ajustements et à faire soi-même un patron de broderie quand on n'en trouve pas à son gré. Cela leur suffit. Voilà, là s'arrête l'éducation de la petite fille, selon Jean-Jacques Rousseau. Dans son Émile ou de l'éducation, 1762.
Bonne semaine, ici Sonny Duval en direct de l'appartement de Joanie Larue avec une chanson sur le thème de la semaine, les filles. J'aime les filles de Hochelaga. J'aime les filles qui aiment le vieux Metallica. J'aime les filles de Villeray. J'aime les filles aux cheveux bouclés. J'aime les filles de NDG. J'aime les filles avec des bottes de pluie. J'aime les filles de Saint-Michel. J'aime les filles de CIBL. J'aime les filles. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Sur Ontario, dans Centre-Sud. J'aime les filles un peu rudes. J'aime les filles. J'aime les filles qui jouent au bi.
Pour mon Vox Pop de cette semaine, je jase avec une fille de 77 ans qui a été élevée avec trois gars et au passage, je demande aux gens ce que c'est que la définition de tomboy ou, si vous préférez, gars manqué.
Je parle de ça, moi j'ai 70 ans, là, donc quand moi j'avais peut-être 10-11 ans, c'était pas comme les petites filles d'aujourd'hui, on se maquillait pas, donc on n'était pas... Les petites filles d'aujourd'hui, elles sont des femmes à 10 ans, là, c'est... Et dans ma génération à moi, je pense qu'on était pas mal toutes tomboys.
Sûrement, ça dépend de leur histoire, du passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour qu'ils aient ce genre de réaction.
J'avais trois frères, j'étais élevée avec des gars chez nous, il n'y avait pas de filles.
C'est quelque chose de vécu, quelque chose d'expérience, quelque chose de bagage en quelque part. Et que ça donne ce que ça donne.
Je pense qu'à trois ans, moi, j'étais féministe. Donc, j'étais un peu révoltée. parce que moi, je ne vais pas sortir le soir, il faisait noir, les frères allaient jouer au hockey, donc j'aurais été plus de ce côté-là.
Elle est féminine, mais ça arrive qu'elle est masculine.
Certaines croyances communes du gars bi fort qui doit faire les choses rudement sans penser à ce qu'il y a autour. Puis malheureusement, à l'inverse, quand un gars fait quelque chose un peu trop soigné, on dit qu'il agit un peu comme une fifille.
J'étais jumelle en plus avec un garçon, donc j'aurais voulu faire comme lui.
Mon Dieu, petit gars manqué, ça représente peut-être une fille qui ne se tient pas nécessairement toujours avec les filles en général, mais qui a plus d'amis de gars, qui va peut-être participer plus à des sports et moins à du magasinage et des trucs comme ça, disons.
Ça existe vraiment un gars manqué?
Je sais pas vraiment, parce que je pense que la tomboy, justement, elle aura un regard un peu dédaigneux sur les métrosexuels en se disant « Mais là, pourquoi est-ce qu'il agit comme une fille? » Alors que moi, je fais des efforts à pas l'être.
J'étais plutôt à jouer au hockey qu'à jouer aux poupées.
Du moins, ils vont avoir plus tendance à faire quelque chose de physique, tandis que les filles vont avoir plus tendance à communiquer leurs émotions entre elles.
Sauf que ça me donnait pas plus de liberté.
C'est ça drôle aujourd'hui.
Un gars manqué serait peut-être le type de garçon qui reste plus à la maison, qui fait pas de sport.
Que l'enfant est né, les femmes m'ont appelé, elles m'ont fait voir le petit bébé. Il était rouge comme une écrevisse, j'étais content. Et puis, j'ai vu qu'il n'avait pas la quiquette. Ah, malheur, j'étais pas content.
Pourquoi? C'est joli aussi une fille. Hein?
Mais c'est joli, mais tant qu'il n'est pas marié, tu peux pas savoir son nom. Et puis, la femme m'a fait encore une fille, et puis un jour, elle me dit, il y a une dame de Paris qui était venue pour se reposer, qui veut amener Patricia à Paris. C'est une dame qui n'avait pas d'enfant, et elle avait les sous. Moi, j'ai dit, tant de filles comme j'ai, ça m'est égal, si on m'en prend une, je ne m'apercevrai pas. Et puis, la femme m'a fait encore d'autres filles, et puis elle est retournée chez le bon Dieu. Et puis un jour, la dame de Paris, elle était morte aussi, et Patricia est revenue à la maison. Elle avait 15 ans. Quand je l'ai vue, je ne l'ai pas reconnue. Elle parlait que je ne comprenais rien. Et puis elle m'a embrassée. Puis elle a lavé toute la marmaille. Et elle a remplacé la mère. Qui n'est pas une fille. Hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Maintenant, Felipe, je l'aime autant qu'un garçon. Ça a l'air bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Autant qu'un garçon.
Vous venez d'entendre La fille du puisatier. Un film de Daniel Auteuil qui sortira au Canada le 4 novembre prochain.
Réussir à rassembler en quelques minutes toutes les chansons qui parlent des filles, c'est pas juste une mission compliquée, c'est une mission carrément impossible. Mais voici quand même une petite sélection. En 1962, Astrud Gilberto enregistre, en anglais et en portugais, s'il vous plaît, « The Girl from Ipanema » ou « La fille d'Ipanema », une chanson qui est vite devenue un des standards de la bossa nova. Mais qui est donc cette fille mystérieuse? On sait qu'elle est grande, qu'elle se rend tous les jours vers la mer et que quand elle marche, on dirait une samba tellement cool, comme le disent les paroles. Walking and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Les légendaires Beach Boys aimeraient bien que toutes les filles de la Terre soient californiennes, comme on l'entend dans le tube California Girls, sorti en 1965. Bon, les filles de l'Est sont peut-être bien hip, les filles du Nord savent garder leurs hommes bien au chaud juste par la façon dont elles embrassent, mais au bout du compte, c'est apparemment les filles de la Californie qui sont les plus fantastiques. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California. En 1964, Serge Gainsbourg compose pour France Gall « Laisse tomber les filles », une chanson dans laquelle la chanteuse suggère à un homme d'abandonner les relations avec les filles.
Elle n'est pas en train de lui suggérer de changer d'orientation sexuelle, là. Non, non. Elle fait juste lui dire qu'avec tout le mal qu'il a fait à ses ex-petites amies, ben un jour, c'est lui qui va se faire laisser là. Puis ben France, là, elle sera pas là pour pleurer ni pour le plaindre. Oh non.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qui pleureras.
Dans Votre fille à 20 ans, Serge Reggiani philosophe sur le temps qui passe et qui semble avoir fait grandir d'un coup, comme ça, une fille qu'on trouvait d'abord juste jolie. Mais voilà qu'elle devient belle et, oh surprise, qu'elle finit par connaître ses premiers tourments.
Votre fille à 20 ans, que le temps passe vite, madame ire encore, elle était si petite et ses premiers tourments sont vos premières rites de madame. Et vos premiers soucis.
Ceux qui ont grandi au son des cités rock matantes de ce monde dans les années 1980 se souviendront sûrement de « À toutes les filles » chantée en duo par les Français Didier Barbelivien et Félix Gray. Une ode aux amours d'adolescents, quand les filles avaient des océans au fond des yeux. Mais bon, on s'excuse quand même d'avance de vous en faire jouer un petit extrait.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants.
En 2001, le chanteur français Benabar enregistre « Il y a une fille qui habite chez moi », une chanson dans laquelle il nous parle de sa nouvelle coloc. Pas de doute, c'est bien une fille, comme il dit, parce qu'il y a maintenant des petites boules bizarres pour parfumer le bain, des sachets de thé à la verveine dans la cuisine et, oh horreur, des fruits et des légumes dans son frigo.
Il y a des détails qui trompent pas, je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Deux brosses à dents, dans la salle de bain, du savon sans savon, et ses cheveux, c'est certainement pas le mien. Des petits bouts bizarres pour parfumer la baignoire, c'est un vrai cauchemar. Quelqu'un a massacré tous mes amis cafards.
Sur son magnifique album Miracle of Five, paru en 2009, la chanteuse californienne Eleni Mendel se demande, avec sa voix douce comme le miel, à quel type de fille son amoureux pense quand il dort, quand il pleure ou quand il chante. Est-ce que ce sont les filles de son école primaire ou les filles de la rue? À moins que ce soit les filles de la semaine dernière.
I wonder how you look when you sleep. Do you still dream about girls from your street? Do you still dream about girls from high school? Do you still dream about girls, girls, girls?
Mais difficile de passer à côté de LA chanson où il est question du plus grand nombre de filles qui soient. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, dans le champ lexical s'attarde aujourd'hui à la chanson « J'aime les filles » de Jacques Dutronc. Dans cette chanson, Dutronc se transforme en chaud lapin qui nous fait l'énumération de toutes les filles dont il est amoureux. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y a les filles qu'on voit dans le magazine Elle, les filles qu'on trouve chez Renault et chez Citroën, les filles à papa et les filles sans papa, les filles qui font Vieille France, les filles de Saint-Tropez et plusieurs autres. Dans le fond, là, cette chanson-là, c'est comme une sorte d'appel à tous, ou d'appel à toutes dans ce cas-ci, vu que le chanteur demande aux filles qui se reconnaissent là-dedans de ne pas se gêner pour le téléphoner. Sacré Jacques, quand même.
J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de ces régimes. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de ces Renault. J'aime les filles de ces Citroën. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, peux pas. J'aime les filles de l'autre. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de me gêner. J'aime les filles de se tromper. J'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles de Camaret. J'aime les filles intellectuelles. J'aime les filles pour marrer. J'aime les filles qui font vieille France. J'aime les filles du cinéma. J'aime les filles de l'assistance. J'aime les filles.
Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi.
Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi.
Tu me disais que tu raffolais pas du mot fille.
C'est pas facile. C'est vraiment une période qui est pas facile. C'est une période où, à mon avis, veut pas tout le monde se cherche, tout le monde est à la recherche de notre identité. Quand on est jeune, on commence à former notre identité. Et puis, on est exposé à plein de choses. Comme moi, quand j'étais en thérapie, je me suis rendu compte que j'étais en crise contre Walt Disney. Puis tous les romans Harlequin que j'ai lus quand j'avais 16 ans qui nous disent un peu c'est quoi l'amour, comment ça doit être. Et puis quand t'es jeune, quand t'es une jeune fille, tu regardes ça et t'as pas de supervision parentale, tu te dis ben ça doit être vrai. Si on montre ça à la télévision, ça doit être vrai. Parce que ça a l'air vrai. Les gens ont de l'air vrai. Ils ont l'air de vivre des vraies choses, mais en même temps c'est un fantasme.
Françoise est une transgenre. Très tôt, elle se voyait beaucoup plus comme une petite fille que comme un petit garçon. Mais en fait, la question est un peu plus complexe que ça. Donc, pour mieux comprendre sa réalité, je suis allée la rencontrer.
Il y a le côté biologie et le côté aussi psychologie. Donc, il y a des gens qui peuvent naître d'un sexe biologique X, mais en même temps, ça ne veut pas garantir qu'ils vont développer la féminité ou la masculinité. Je suis jeune que moi, je m'identifiais d'une certaine façon, mais que les gens ne m'identifiaient pas de la même manière, comme mes parents. Ou les gens qui, par exemple, je sais pas moi, à l'école, quand on a découvert que j'étais un garçon, ben, ils ont été très choqués, puis j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça. À cause de...
Découvert que tu as fait ça?
Non, mais c'est pas ça, c'est juste... Bon, tout le monde, chez les enfants, physiquement, entre un garçon puis une fille, à part les cheveux longs, puis les couleurs qu'ils peuvent porter, qui envoient des signaux aux gens autour de quel sexe qu'ils sont. Donc, moi, avec mon attitude, puis avec ma voix, les gens pensaient que j'étais une petite fille. Puis là, bon, mes parents étaient comme, non, c'est un petit gars, c'est un petit gars. Puis bon, quand j'allais à l'école, il y avait une pression sociale d'être d'une certaine manière ou de se comporter d'une certaine manière. Donc, moi, à la maison, j'ai joué avec... parce que j'avais envie de jouer. La plupart de mes amis, c'était des filles.
À quel moment est-ce que tu as décidé de plus t'habiller en fille puis vraiment de t'identifier comme une fille dans la société?
Honnêtement, j'ai pris la décision à l'âge de 16 ans quand j'ai découvert que c'était possible. Par contre, bon, je viens d'une famille très catholique. Quand j'ai dit ça à mon père à l'âge de 16 ans, je sais pas qu'est-ce que j'avais pensé dans ma tête. Mais mon père, il a explosé, il a dit non, tu peux pas faire ça. Puis j'étais faire ma transition. Il me dit, bon, mon père, il vient d'une autre génération, il pensait qu'on avait interné, toutes ces choses-là.
Ça consiste en quoi une transition?
OK. Ben, c'est un peu comme pour ceux qui sont gays et lesbiennes, dans le sens que, bon, un, c'est avec nous-mêmes, on fait la paix avec nous-mêmes. On se dit, ben là, je peux pas rien faire, hein, c'est comme ça que c'est. Ensuite de ça, on dit aux gens autour de nous, si on est employé, on dit à notre employeur, on l'avertit d'avance, évidemment, on n'arrive pas au travail du jour au lendemain. On avertit nos collègues, on avertit tout le monde. La famille aussi. Puis ensuite de ça, il y a des gens qui font rapidement d'un coup. Il y a des gens qui ont déjà vécu ce qu'on peut dire une transition de temps partiel. Donc au travail, ils sont pas. Ils sont dans leur sexe d'origine et puis dans leur vie sociale, après le travail, ils se pratiquent à être le sexe qu'ils voudraient être. Et puis ensuite, il y a des gens qui graduellement le font.
Mais est-ce que tu as eu des opérations ou c'est vraiment que.
Non, pour l'instant, j'ai pas eu d'opération. Non. Parce que, bon, c'est un, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc, faire une opération immédiatement après un an ou même deux ans, c'est risqué parce que il y a toujours ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Donc, bon, on est euphorique parce qu'on a fait le changement après tant d'années. Puis, bon, après la première année ou la deuxième année, l'euphorie subside. Et puis, on revient à la réalité. Et puis, la réalité, c'est difficile, comme pour tout le monde. C'est difficile. Puis, aussi, je pense que dans notre société, être une femme, c'est encore plus difficile. Donc, il y a le double ajout de vivre sa vie en tant que femme et en tant que personne transgenre. C'est beaucoup de pression. Il y a une chose que j'étais un peu surprise, puis quand j'ai transitionné, c'est la compétition féminine. Donc, je veux pas les filles, c'est vrai, comme je pensais que c'était un cliché, qu'il y avait une compétition féminine, et quand j'ai commencé à transitionner, j'ai senti, surtout mes amitiés féminines que j'avais, j'ai senti un shift dans comment on interagissait avec moi. Tout d'un coup, il y avait une espèce de compétitivité que je trouvais un peu ridicule. Parce qu'au fond, je crois que pour beaucoup de femmes, la beauté, c'est quelque chose d'important. Puis, tout d'un coup, je m'étais rendu compte que j'étais rendue la compétition.
C'est relaxant, Justin Bieber. Oh oui, Justin Bieber, là. L'idole des jeunes filles. Celui avec le drôle de toupette sur toutes les magazines pour petites filles. C'est relaxant. Parce que quand on prend une de ses chansons comme celle-là, You Smile... You smile, I smile. Et qu'on l'étire beaucoup, 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 beaucoup avec un logiciel en lui faisant garder la même hauteur de note, et bien ça donne ça. C'est beau, du
Justin Bieber. Je sais pas pourquoi les gens se plaignent. C'est beau. C'est relaxant.
Si Jean-Jacques Rousseau ne pensait pas que les petites filles devaient avoir accès à l'éducation, d'autres philosophes, d'autres penseurs ont prôné des idées autrement plus innovatrices, notamment le marquis de Condorcet, qui réclamait des écoles mixtes et un accès égal à l'éducation, tant pour les petits garçons que pour les petites filles. On trouve aussi de multiples réclamations de groupes de femmes au moment des différentes manifestations de la Révolution française. Et ici, je vous lirai un extrait d'une pétition des femmes du tiers-État au roi. C'est daté du 1er janvier 1789. Donc, le tiers-État, c'était tous ceux qui n'étaient ni de la noblesse, ni du clergé, les gens ordinaires, si l'on veut. Voilà. Les filles du tiers-État naissent presque toutes sans fortune. Leur éducation est très négligée ou très vicieuse. Elle consiste à les envoyer à l'école chez un maître qui lui-même ne sait pas le premier mot de la langue qu'il enseigne. Et les premiers devoirs de la religion remplis, on leur apprend à travailler. Parvenues à l'âge de 15 ou 16 ans, elles gagnent 5 ou 6 sous par jour. Si la nature leur a refusé la beauté, elles épousent, sans dot, de malheureux artisans, végètent péniblement dans le fond des provinces et donnent la vie à des enfants qu'elles sont hors d'état d'élever. Si, au contraire, elles naissent jolies, sans culture, sans principe, sans idée de morale, elles deviennent la proie du premier séducteur, font une première faute, viennent à Paris ensevelir leur honte, finissent par s'y perdre entièrement et meurent, victimes du libertinage. Pour obvier à tant de maux, sire, nous demandons à être éclairés, à posséder des emplois, non pour usurper l'autorité des hommes, mais pour en être plus estimés, pour que nous ayons des moyens de vivre à l'abri de l'infortune, que l'indigence ne force pas les plus faibles d'entre nous, que le luxe éblouit et que l'exemple entraîne, de se réunir à la foule des malheureuses qui surchargent les rues et dont la crapuleuse audace fait l'opprobre de notre sexe et des hommes qui les fréquentent. Nous vous supplions, sire, d'établir des écoles gratuites où nous puissions apprendre notre langue par principe, la religion et la morale, que l'une et l'autre nous soient présentées dans toute leur grandeur, entièrement dénuées des petites pratiques qui en atténuent la majesté, que l'on nous y forme le cœur, que l'on nous y enseigne surtout à pratiquer les vertus de notre sexe, la douceur, la modestie, la patience, la charité. Quant aux arts agréables, les femmes les apprennent sans maître. Les sciences, elles ne servent qu'à nous inspirer un sot orgueil, nous conduisent au pédantisme, contrarient les vœux de la nature, font de nous des êtres mixtes, qui sont rarement des épouses fidèles et plus rarement encore de bonnes mères de famille. On voit qu'on était quand même encore un tout petit peu loin d'une école égale pour petits garçons et petites filles, même dans les désirs des femmes. C'était donc une pétition des femmes du tiers-État au roi, datée du 1er janvier 1789, pétition qui resta, et va sans dire, plutôt lettre morte encore pour une grosse centaine d'années.
Pourquoi tu laisses le monde parler?
l'émission tire à sa fin, je vais m'adresser directement aux filles. Mesdemoiselles, il y a combien de temps que vous ne vous êtes pas adonnées à un édifiant test et quiz dans un magazine de filles? Alors pour vous, mesdemoiselles toujours, on va faire ensemble le test le plus excitant du magazine Cosmopolitan. Êtes-vous au top en toute saison? Alors, le précède est « Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, savez-vous sublimer votre éclat naturel et passer outre les épreuves du temps en toute beauté? Faites ce test pour en avoir le cœur net! » J'ai hâte, donc commencez seulement. Première question. Vous êtes dans le cocon bien chaud de votre appartement, mais dehors, il fait aussi froid qu'en Sibérie. Vous êtes pourtant obligé de sortir. Alors, vous misez sur un duo imparable, bottes fourrées et parka vintage. Vous dites que le métro n'est pas si loin et si vous courez, ça vous réchauffera en prime. Ou vous enduisez votre cold cream qui défend votre petit nez fragile des affres du froid. Quoi? Ça ne vous intéresse pas? Ça vient pas brasser en vous des émotions profondes ou des questionnements existentiels? Bon, OK. Alors, essayons un autre test. Savez-vous mettre vos gros seins en valeur? Non? Non, ça non plus, ça vous tente pas? Bon. Vous n'avez qu'à nous revenir la semaine prochaine pour un mot différent. Nudité!
Chant lexical est une émission de Joanny Larue et Mathieu Charlebois. Notre équipe cette semaine, Mademoiselle Chloé Berry au texte historique, Mademoiselle Annie Rossano au vox pop, Mademoiselle Sonny Duval à la chanson originale, Mademoiselle Pierre Duchesneau aux chansons thématiques et Mademoiselle Dominique Charon à la recherche. Toutes les émissions de Dans le champ lexical peuvent être téléchargées sur notre site www.danslechamplexical.com et vous pouvez vous abonner à notre balado-diffusion sur iTunes.